Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Elliot Schoenfeld est un urbain d'origine qui a très vite, à l'âge de 20 ans, pris le large pour aller à la découverte des grands espaces et nous ramener différents documentaires qu'il présente sur des festivals de France. Le dernier en date raconte sa traversée de l'Amazonie sur les traces de Raymond Moffret. Allons à sa rencontre sur le festival du Grand Bivouac. Elliot, là on est au Grand Bivouac et on te voit dans pas mal de festivals depuis quelques années par rapport à tes différentes expéditions. Alors pourquoi ? Peut-être parce qu'elles sont folles, peut-être parce que tu es jeune, peut-être parce que tes projets sont complètement improbables et un peu fous, peut-être aussi parce que ces projets répondent à un questionnement interne à pas mal de personnes. Cette notion du sens, la place de l'environnement, l'écologie, sa propre place dans le monde. Et pour toutes ces raisons, et sans doute beaucoup d'autres, tu te balades de festival en festival et tu enchaînes les voyages avec une caméra où tu te mets en situation et tu filmes un petit peu tes périples. Alors, dans ces périples, je crois que tu avais commencé avec l'Australie.
En vrai, après cette première expérience dans la nature qui était en réalité un accident en Australie où je me suis retrouvé sans vraiment le vouloir seul pendant plusieurs jours avec quasiment rien à bouffer sur Fraser Island, dans la forêt qui est au milieu là. Donc ma première expérience de nature sauvage qui a été la graine qui a fait que tout ce que j'ai fait après quoi. Enfin, c'est de là que tout est parti, je pense. Et après moi je suis allé travailler au Canada en tant que guide de chien de traîneau pendant un an. Et en rentrant de ces deux voyages, Australie-Canada, moi j'étais seulement supposé faire une petite année de césure, ou alors c'était devenu deux années de césure, mais après je suis revenu du Canada en me disant qu'il était temps de revenir à la normalité, ou ce qu'on me présentait comme tel, et de reprendre des études, et c'est ce que j'ai fait, j'ai repris une licence de philo. Et en fait c'est dès les premiers jours de fac que j'ai décidé de devenir explorateur, quoi. Et là, j'ai commencé à organiser des expéditions. La première expédition un peu modeste, mais c'était de traverser l'Islande, du sud jusqu'au nord à pied. Ça, c'était la première fois où je marchais aussi longtemps, que j'étais seul aussi longtemps, que je devais me débrouiller par mes propres moyens aussi longtemps, etc. Celle qui a suivi, c'était en Mongolie. Et ça, c'est la première vraie expédition, je dirais, de ce que j'ai fait, parce que c'est la première fois que je réalisais un film, c'est la première fois que j'écrivais un bouquin. Et donc, je pense que c'est vraiment parti de là. Et après la Mongolie, j'ai réalisé une expédition en Alaska, et ensuite l'Himalaya, et puis l'année dernière en Amazonie. Et c'est le film que je présentais ici, là.
Donc on va un peu décrypter ton parcours, on parlera aussi dans cette émission de ce film sur les traces de Raymond Moffret qui a été présenté ici à Albertville au Grand Bivouac. Cette notion d'explorateur, le mot explorateur, est-ce que tu as su très jeune que tu voulais être explorateur? À quel moment est-ce que tu t'es mis en tête de « allez maintenant je deviens explorateur et j'essaie de vivre de ça » parce que l'idée c'est de vivre aussi de cette passion ou de ce métier.
Comment c'est venu? C'est vraiment... Encore une fois, c'est vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont bousculées dans ma tête sans que j'en prenne forcément conscience, mais sur ce moment que j'ai vécu en Australie. Et en fait, ça n'a cessé de grandir et de s'imposer à moi, c'est-à-dire cette volonté de passer en gros la majorité de mon temps dans les endroits sauvages de cette terre, qui restent sur cette terre. Je pense que c'est surtout aussi les gens que j'ai pu rencontrer, notamment la première fois en Mongolie. Parce qu'en Mongolie, la moitié des gens qui y habitent sont des nomades. Et moi, avant d'aller en Mongolie, j'ignorais que ça existait, moi, le nomadisme. J'ignorais qu'on pouvait vivre différemment que ce que j'avais toujours vécu en étant à Paris, en ville, etc. Et ça a été quelque chose de très déterminant. Parce que pour la première fois, j'ai eu cette impression en fait que j'avais vécu un peu dans une bulle, ou coupé de l'origine des choses, ou coupé du réel en fait, en ayant vécu toute ma vie dans un milieu artificiel, coupé de la nature, de manière extrêmement radicale. Et depuis ce moment-là, en fait, moi, mon objectif, et donc on appelle ça explorateur. Après, moi, en réalité, je moi, ce que j'essaye de faire, c'est de revenir sur Terre, quoi. Parce que j'ai eu l'impression de découvrir sur Terre quand j'ai découvert la nature sauvage. Et j'essaye d'y revenir, quoi. Parce que j'ai l'impression que j'avais vécu un peu comme qu'on vit et que la civilisation nous fait vivre comme si on était sur une autre planète. Et c'est pour ça que ça se passe si mal, d'ailleurs. Voilà, l'objectif, le propos de ce que je fais, c'est d'essayer de réapprendre à vivre sur Terre, de retrouver mes instincts oubliés et j'arrive en grande partie à le faire avec les dernières personnes qui savent encore habiter la Terre, à savoir des peuples qui vivent en harmonie avec ce qui les entoure. Et ça m'a appris une chose super importante quand même, parce que j'avais un côté misanthrope, je pense, jusqu'à assez tard, en me disant que en fait l'homme était destructeur de manière intrinsèque en fait, et par nature l'homme détruisait la nature, et c'était un peu la conclusion que j'avais pendant un sacré moment. Et rencontrer ces hommes là donc ceux qui savent encore habiter la Terre, et quelque part ça m'a redonné beaucoup d'espoir, et surtout ça m'a redonné foi en l'humanité, en me disant que non, ce n'était pas l'homme qui en soi était destructeur de la nature, mais c'était un système qui est théorisé, qui est réfléchi, qui est décidé, qui s'appelle la civilisation industrielle. Ça, c'est la civilisation actuelle, mais plus largement, on pourrait appeler ça la civilisation, et qui a fait oublier à l'homme qui faisait partie du vivant, et qui lui présente la nature comme quelque chose d'hostile, comme quelque chose de barbare. Et moi, en étant dans la nature, j'ai réalisé que ce n'était pas la nature qui était barbare, mais que la barbarie était de s'en éloigner. Et je pense que ce système extractiviste, capitaliste, consumériste, etc., etc., est incompatible avec le vivant sur Terre. Donc on peut rajouter du verre sur des trucs, on peut parler de éolienne, on peut foutre des poubelles de toutes les couleurs, etc. Je pense que dans son essence, ce système est incompatible avec le vivant, et pire que ça, il est en guerre contre le vivant, et il s'avère qu'aujourd'hui il est en train de gagner cette guerre. Voilà, moi, ce que j'entends en fait par explorateur, donc c'est pas du tout une définition qui est, c'est la définition qu'on entend dans le dictionnaire, et donc je sais même pas si en fait il faudrait m'appeler explorateur, mais en tout cas c'est un individu qui essaye de renouer avec le vivant qui fait de cette planète, qui rend cette planète unique, quoi, et qui est jusqu'à preuve du contraire unique dans tout l'univers, quoi. Donc voilà.
C'est vrai qu'aujourd'hui on vit dans un monde où sévit vraiment une famine de l'essentiel. Elliot Schoenfeld, finalement, si tu es aujourd'hui un peu dans les champs médiatiques, c'est peut-être parce que tu réponds à cette demande ou à ce questionnement, cette perte du lien, cette perte de sens aujourd'hui de pas mal de personnes, de pas mal d'hommes. On le voit bien pendant le confinement, on s'est rendu compte à quel point on était loin d'être résilient, d'être souverain, d'être autonome. Et je crois que pas mal de gens aujourd'hui, de plus en plus, se rendent compte de cette déconnexion totale à l'environnement naturel qui finalement nous nourrit tous. Et c'est peut-être aussi à travers l'exemple, parce que c'est ça, cette notion d'exemplarité, tu vas te mettre dans des situations extrêmes pour te reconnecter à ta nature intrinsèque, quelque part. Et je pense que ça, le fait de te mettre en avant en vidéo et de montrer aux gens que c'est possible d'essayer de se reconnecter, même si c'est compliqué, et c'est ça qu'on va aborder, parce que c'est pas tout rose, il y a souvent une sorte d'idéal, mais c'est pas si simple que ça. Le film que tu as montré hier soir est juste dingue, mais complètement dingue. Tu as choisi de partir, de traverser une partie de la Guyane comme ça, sans avoir vraiment une connaissance du milieu, du biotope, avec un sac à dos, une machette que tu perds pendant le documentaire, un briquet, je crois que tu perds aussi, ou non, peut-être pas le briquet, c'est autre chose que la rame, tu perds ta rame, oui, parce que c'est ça, il s'agit de pagayer. Et tout ça, un projet dément qui est né parce qu'un jour, en allant chez le dentiste, tu t'es arrêté dans une librairie, tu as vu un bouquin d'un gars qui s'appelle Raymond Moffret, et tu t'es dit, ok, moi aussi.
Ouais, c'est ça, c'était un beau jour de juillet 2018, donc j'avais effectivement rendez-vous chez le dentiste, et j'étais en avance, donc je suis rentré chez Gilbert Joseph, là, à Saint-Michel, et deux ans avant ce jour-là, j'avais fait une projection de mon film Seul en Alaska, et une dame était venue à la fin de la projection pour me dire que ce film et que ce que je faisais lui avait fait penser à Raymond Moffret. Moi, je ne connaissais pas du tout Raymond Moffret, et puis je ne savais pas du tout, après avoir parlé avec elle, qui c'était, parce que y a beaucoup de gens qui disent des choses et tu n'as pas le temps forcément de t'intéresser à tout. Donc j'avais oublié complètement ce nom de Raymond Moffret, mais pas tout à fait, parce qu'en fait, dans la librairie, c'est quand même ce nom m'a attiré l'œil plus qu'un autre. Et donc j'ai saisi ce livre et je l'ai lu du premier jusqu'au dernier mot, assis dans le rayon. J'ai complètement loupé mon rendez-vous chez le dentiste. Et je suis sorti de ces librairies avec un sentiment d'extrême urgence, à savoir d'aller retrouver ce gars-là, ce qui était impossible. Alors, pour expliquer simplement c'est quoi ce livre, c'est le carnet de bord donc, de cet explorateur, Raymond Mauffray, qui, à l'âge de 23 ans, a décidé en 1949 de quitter la civilisation, de quitter la France et de partir dans la jungle. Et son rêve, c'était de traverser donc, toute la Guyane française jusqu'au Brésil, jusqu'à un endroit où on disait qu'il y avait, la légende disait qu'il y avait des montagnes, les monts Tumucumac, où habitait une tribu d'Indiens très grands, aux yeux bleus, comme toi, et qui habitait donc dans cette région-là. Et lui, son rêve, donc, c'était d'aller les rencontrer, d'apprendre à vivre comment ils vivaient, de vivre dans la jungle comme eux. Et lui, c'est comme ça qu'il l'explique, en tout cas, son projet et son rêve, c'était de retrouver ses instincts oubliés, donc c'est de ce dont on parlait juste avant. Alors pourquoi c'est une histoire de dingue? Déjà parce que c'est quand même assez étonnant de la part d'un jeune garçon juste après la guerre, où on était dans une société justement où un peu tout se précipitait. C'était le début de la consommation, ou en tout cas de ce nouveau aussi cette nouvelle échelle de consommation, etc. Donc il était un peu à contre-courant de tout ce qui se passait dans le monde à ce moment-là. Il a décidé donc d'aller dans la jungle et il n'est jamais revenu de cette expédition. Donc Raymond Mauffray a disparu dans la jungle, on n'a jamais retrouvé quoi que ce soit de lui, sauf une chose, ce fameux carnet qu'un Indien émérillon a retrouvé par un hasard absolu au milieu de la jungle guyanaise, sur le bord d'une rivière qui s'appelle le Petit Amouri. Donc il a trouvé son sac dans lequel se trouvait son journal de bord, donc c'est un genre de journal intime dans lequel il décrit, il relate chaque jour du défi qui s'était imposé. Et on comprend en fait en lisant son livre tout ce qui lui est arrivé au quotidien. Et à la fin en fait, il arrive à un endroit qui s'appelle le Dégrat de Claude, donc sur les bords de cette rivière qui s'appelle le Petit Amouri. Et il doit descendre cette rivière pour atteindre le prochain village qui est à plus de 100 km de là. Il essaye de se construire un radeau, il n'y arrive pas. Il essaye de se construire une pirogue mais il n'a pas les outils pour. Donc il commence vraiment à... Il est parti un peu à l'arrache aussi, il est parti sans vraiment connaître. Je pense que lui aussi, il avait un rêve urgent et ce rêve lui a fait brûler beaucoup d'étapes. Et donc, ça ne s'est pas bien passé. Mais en tout cas, il est venu à un point où il était très affaibli. Il avait beaucoup de mal à chasser, il n'arrivait plus à se nourrir. Et il était très faible. Et donc, il a compris que le seul moyen d'essayer de sauver sa peau, c'était d'abandonner toutes ses affaires et de partir à la nage pour essayer de rejoindre le village. Ce qui est assez impossible à faire en réalité. Et voilà, il a disparu. Et c'est une histoire aussi magnifique que tragique, parce que son père, qui s'appelle Edgar Mauffray, lui, il n'a jamais accepté la mort de son fils. Et comme on n'a jamais retrouvé son corps ou quoi que ce soit, il y a toutes sortes de rumeurs qui sont arrivées, c'est-à-dire peut-être qu'il avait été adopté ou kidnappé par une tribu d'Indiens, peut-être qu'il était devenu amnésique, enfin qui sait quoi, il y a eu toutes sortes d'histoires. Et donc son père, qui était comptable à Toulon, a monté une vingtaine d'expéditions à travers toute l'Amazonie. Il a remonté, je crois, 18 000 km de rivière. Et pendant 12 ans, il a cherché son fils sans relâche. C'est devenu un des plus grands explorateurs de l'Amazonie. Et bien sûr, il n'a jamais retrouvé son fils. Mais c'est une histoire, moi, qui m'a profondément touché. Et puis surtout, la lecture de ce livre, en fait, je ne dirais pas ça de beaucoup de livres, mais c'est le livre qui m'a le plus marqué dans ma vie jusqu'à présent. Parce qu'il s'est passé un phénomène tout à fait étrange à la lecture de ses mots, de ses pensées, de ses descriptions, de sa poésie. C'est que je me suis retrouvé terriblement dans tout ce qu'il écrivait. Et j'ai eu ce sentiment que beaucoup de personnes connaissent, mais qu'il exprimait des choses auxquelles j'avais toujours, qui étaient toujours un peu dans mon crâne, mais que j'avais jamais vraiment réussi à matérialiser par des mots, ou en tout cas aussi bien que lui. Et donc je me suis vu l'aimer comme un frère, comme un ami. Et donc c'est pour ça qu'en sortant de cette librairie, j'ai eu ce besoin terrible de vouloir de vivre ce qu'il avait vécu, d'essayer de me rapprocher de lui le plus possible. Et me rapprocher de lui, ça signifiait de refaire tout son parcours, de terminer ce qu'il avait commencé et d'essayer de finir son rêve. Et donc 3 semaines après être sorti de la librairie, je suis parti en Guyane et avec cet objectif-là, quoi. Voilà.
Elliot Schoenfeld, tu t'es déjà retrouvé avec une bombe à poivre face à un ours dans l'Alaska, qui était en train de démonter ta tente. Tu as tenté une traversée, tu as fait une traversée himalayenne avec un cheval qui, je crois, n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de l'aventure, mais toi, si. Là, tu te mets en tête de traverser la Guyane pour rejoindre le Brésil sur les traces d'un mort. Il y a quand même cette notion de danger tout autour de toi. Et comment tu perçois ça? Qu'est-ce qui fait que tu te dises « non, j'y vais » Parce que là, quand même, tu savais que Raymond Maufray n'a pas réussi. Qu'est-ce qui fait que tu te lances dans une aventure? Parce que toi, peut-être que tu avais aussi toutes tes chances d'échouer.
Ouais, je pense que moi, je suis un garçon prudent. Alors, ça se voit peut-être pas dans mes films. Mais honnêtement, je suis un garçon prudent. Et en fait, moi, j'ai commencé quand même de manière très progressive. Je n'ai pas commencé directement à traverser l'Himalaya. Je n'ai pas commencé directement à traverser la Guyane, etc. C'est allé de manière assez de par étapes. Et je pense que c'est absolument nécessaire si on souhaite faire ce cheminement. Parce que tout simplement... on n'est pas du tout préparé, quoi, et on est complètement. Moi, on m'a appris toute ma vie à ne pas savoir vivre dans cet endroit-là, donc je peux pas du jour au lendemain espérer pouvoir y aller et réussir un projet quel qu'il soit dans ces endroits-là. Donc en fait, j'ai passé plusieurs années à faire des expéditions plus modestes et puis un peu plus ambitieuses, etc. Et j'ai appris pendant toutes ces années à me connaître en fait, et à savoir de quoi mon corps était capable, de savoir de quoi ma tête était capable, à savoir. Justement à prendre cette prudence et à savoir de quoi jauger les risques et ne pas prendre des risques irrationnels. Moi, j'ai aucune honte à faire demi-tour à des endroits si je considère que c'est trop dangereux. Mais c'est vrai que cette expédition, elle était assez unique et franchement très différente de toutes les autres, parce que il y a une forme de folie dans cette expédition, et je le reconnais tout à fait, parce que pour la première fois de toute je veux dire carrière d'explorateur, mais en tout cas de tout ce que j'ai fait auparavant, j'ai eu pour la première fois la peur de mourir, et j'ai cru que j'allais mourir, et j'ai eu sacrément peur à beaucoup de moments. Et je rêve, et je sais que je vais revenir en Amazonie, parce que c'est en même temps l'endroit où j'ai été le plus heureux du monde, et c'est le plus bel endroit où j'ai jamais foutu les pieds de ma vie, aussi dur que ça a été. Mais je retournerai plus dans ces mêmes conditions, parce que j'y ai appris des sacrées leçons, et puis le témoignage de Maufray aussi nous enseigne des sacrées leçons, à savoir que il y a une super belle phrase dans son livre où il est vraiment dans un état assez déplorable, où il est vraiment très maigre, etc. Et il dit que c'est pas la jungle qui est dangereuse, c'est notre ignorance, c'est son ignorance, c'est mon ignorance, et en fait l'Européen, c'est ce qu'il dit, alors je sais plus exactement quel il dit, mais l'Européen il dit que la jungle est hostile, il dit que la jungle est dangereuse et terrible, etc. parce qu'il lui faut un prétexte, et il refuse de reconnaître qu'en réalité ce danger c'est nous-mêmes qui nous mettons en danger. Je veux dire, les chasseurs-cueilleurs ou les Amérindiens ou les qui habitent dans la jungle, ils sont sérieusement pas en danger dans la jungle, quoi. Donc c'est vraiment une histoire de connaissance, c'est-à-dire savoir pêcher, savoir reconnaître les fruits, savoir comment progresser dans la jungle, comment savoir se comporter face à des animaux, etc. Il y avait quand même deux points qui étaient aussi inédits dans cette expédition, c'est que pour la première fois de tous les voyages que j'ai fait, je n'ai croisé absolument aucun homme pendant toute la durée de l'expédition. Donc pendant 46 jours, j'étais réellement seul dans la jungle, et ça m'était jamais arrivé avant. Je veux dire, en Alaska, j'avais été le seul pendant une longue période de 3 semaines, mais je veux dire, j'avais des étapes où je croisais un village, et pendant cette expédition en Amazonie, il n'y avait aucune halte hospitalière, aucun village, aucune chance de rencontrer quelqu'un. Et le deuxième point qui était différent, c'est que moi j'emporte un téléphone satellite dans mes expéditions, c'était la condition de mes parents pour que je fasse ce que je fais. Et sous les arbres, en fait, le téléphone satellite marche très mal, ne marche pas du tout. Et donc en réalité, c'était une véritable solitude, quoi. C'est-à-dire, si j'avais un problème, en gros, je devais soit résoudre ce problème, soit mourir. Et c'est ce qu'il écrit aussi Raymond Maufray, c'est-à-dire que y avait deux options, c'était soit réussir, soit crever. Donc ouais, il y a eu des moments de peur, et heureusement j'ai eu plus de chance que lui. La différence, c'est que moi j'ai réussi à me construire un radeau, et donc ça m'a permis de descendre cette fameuse rivière Tamuri. Et le 12 septembre 2019, après 46 jours d'expédition dans la jungle, j'ai rencontré les premiers hommes du voyage. C'était des Indiens Teco qui étaient dans leur pirogue et qui partaient chasser et pêcher sur la jungle pendant plusieurs jours. Et donc je suis monté dans leur pirogue, et puis j'ai eu le sentiment à ce moment-là j'avais le sentiment d'être sauvé, parce que c'était le cas, mais j'avais aussi l'impression d'avoir sauvé Maufray un peu d'une certaine manière. Et je pense que Maufray n'a pas réussi à le faire seul, et je pense que je n'aurais jamais réussi à le faire seul non plus. Et alors ça peut sembler un peu... cucu quoi de dire ça, mais en même temps c'est pas mon genre d'être cucu, j'essaye de pas l'être en général, mais pour le coup c'est vraiment vrai, c'est-à-dire que j'étais avec lui quoi, et il y avait des moments un peu de transe où son livre en fait ça a été le seul bouquin que j'ai ramené pendant cette expédition, je le lisais chaque jour, et c'était très étrange parce que cet endroit de la forêt a peu changé depuis 70 ans, et donc je voyais les mêmes choses que lui, je reconnaissais des endroits comme si j'y avais déjà été allé parce que j'avais lu des dizaines de fois ces descriptions. Je passais par les mêmes émotions, par les mêmes joies, par les mêmes peurs, par le même bonheur, par les mêmes angoisses. Et je rencontrais les mêmes animaux et j'avais les mêmes pensées au milieu de tous ces arbres. Et donc j'avais vraiment l'impression qu'il était là, quoi, tout proche. Et j'avais souvent le sentiment que j'allais le rencontrer au prochain camp. Quoi. Donc souvent je ramais et je dis, putain, ça va être au prochain camp. Non, je vais voir, il aura son hamac entre deux arbres, son chien Bobby à ses pieds, il sera en train de fumer sa pipe. Et
là où tu côtoies un peu la folie.
C'est une forme de folie, alors c'est pas... J'ai l'impression que des fois il y a un côté péjoratif à la folie. C'est pas non plus une folie qui m'a mis en danger. Alors ça m'a mis en danger à l'origine parce que faire cette expédition c'est quelque chose de fou et j'ai été en danger. Et en même temps c'est quelque chose qui m'a sauvé, c'est-à-dire que comme je disais au début, je pense que j'aurais jamais réussi cette expédition. Voilà. C'est pour ça que quand j'ai terminé cette expédition, j'ai sauvé tous les deux. Il a pas réussi tout seul, j'ai pas réussi tout seul, mais on a réussi à le faire tous les deux.
Avant de cette notion de perte de lien à l'environnement, cette déconnexion totale de l'être humain à la nature, dans la situation, dans cette épopée, dans cette aventure, dans cette traversée guyanaise de la forêt équatoriale, tu n'es pas tellement en train de t'adapter, tu es plus en mode survie en fait, c'est plus de la survie ce que tu fais qu'une réelle adaptation.
Ouais, mais je pense que cette expédition est en partie un échec, en tout cas dans le sens que, ou dans le projet qui était le mien et celui de Mauffray, donc c'est forcément un échec pour Mauffray parce qu'il en est mort, et c'est un échec aussi pour moi parce que j'ai jamais réussi à vivre dans la jungle, j'ai simplement réussi à y survivre, et le projet, mon but c'est en rien de me mettre en danger, vraiment c'est même tout le contraire en fait, c'est vraiment d'apprendre à vivre dans ces endroits-là, à vivre pleinement et pas à survivre et pas être dans un truc de survivalisme et pas être dans un truc d'extrême où on cherche le danger pour le danger. C'est vraiment d'essayer d'apprendre à comment être libre dans ces endroits-là. Et on apprend à y être libre en sachant, en ayant tous ces savoirs qui sont d'ailleurs en train d'être perdus un peu partout, mais que je considère comme les savoirs les plus précieux, les plus fondamentaux qui existent, à savoir vivre en fait dans cet environnement-là, savoir être autonome, savoir être libre, parce que ne serait-ce que pour la nourriture, parce que je pense que quiconque nourrit un homme est son maître, comme dirait l'autre, et c'est pour ça que moi, côtoyer en tout cas les nomades que j'ai rencontrés en Mongolie, côtoyer les chasseurs-cueilleurs, côtoyer des trappeurs en Alaska, moi c'est vraiment vers cette idée de l'autonomie qui est un synonyme de liberté pour moi, vers lequel je tends. Et c'est pas quelque chose que j'ai réussi à atteindre en Amazonie. Et c'est pour ça que j'ai terriblement envie d'y retourner parce que j'ai été beaucoup de choses à y apprendre, et la prochaine fois en fait j'aimerais beaucoup aller vivre avec des Indiens en fait et m'apprendre à construire un arc, m'apprendre à lire la rivière pour savoir y pêcher des poissons, apprendre à développer tous mes sens, parce que les quelques jours que j'ai passé avec les Indiens à la fin de l'expédition, en fait j'ai appris beaucoup plus de choses que tout le long de l'expédition, en tout cas des choses vraiment différentes, et c'était super fort de voir ces gars-là, voir, entendre, sentir toutes ces choses qui étaient invisibles à mes yeux, à mes oreilles et à mon nez. Ils ont vraiment des sens qui sont adaptés à ce milieu-là et qu'on a oublié. Et je pense que c'est tout à fait possible de les réapprendre et de les retrouver, ces fameux instincts oubliés. Mais il y a eu plusieurs moments. En fait, j'ai réalisé que 90% des choses que j'avais croisées pendant mon expédition, je ne les avais pas vues. Et parce qu'en étant avec eux, des fois, ils parlaient en chuchotant, en regardant les arbres. Moi, je voyais que du vert, quoi. Et en fait, je comprenais de quoi ils parlaient que quand ils revenaient avec l'animal qu'ils avaient chassé. Et c'était super impressionnant de voir ça.
Il peut y avoir sûrement aussi beaucoup de choses comestibles autour de toi dont tu ignorais complètement l'existence.
Oui, mais on le voit dans le film, quoi, à la fin, je veux dire, les Indiens avec qui j'étais, ils pêchaient des dizaines de poissons par jour, quoi. Moi, j'ai réussi à en pêcher 5, et il y en a qui ne faisaient pas plus grand que ma main, quoi. Donc, oui, en fait, c'est un endroit où la vie, peut-être l'endroit sur Terre où la vie prospère le plus, où la vie est aussi foisonnante, où la vie est aussi libre, aussi, parce que la vie est permise dans cet endroit. C'est un des derniers lieux où la vie résiste à l'effondrement du monde. Et donc, évidemment, que c'est un endroit où on peut vivre, en fait. C'est parce qu'en fait, il n'y a que ça dans cet endroit-là, il n'y a que de la vie.
Ce qui est incroyable, c'est la capacité de l'homme à s'adapter à tout type de situation, à tout type de biotope. Donc les peuples premiers dont tu parles, les peuples racines, eux ont su vivre cette communion avec l'environnement, savent se débrouiller, savent non pas survivre, mais vivre. Et nous, on a réussi à vivre aussi dans des villes qui des fois sont complètement démentes. Donc il y a cette notion de s'adapter, mais des fois à un système malade. Et je crois que l'enjeu, c'est de réussir à prendre un petit peu de recul par rapport à notre propre réalité et se rendre compte des fois de la folie dans laquelle on vit et on existe et dans laquelle on s'adapte.
Oui, ouais, je pense que vraiment on vit dans un monde de fous, hein, honnêtement. Un monde qui a tué 70% des espèces animales en 50 ans. J'ai du mal à voir comment on pourrait le considérer autrement comme un monde fou. Il y a une autre chose qui m'a beaucoup, je pense, enfin c'est pas une autre chose, c'est peut-être un des points les plus importants aussi qui m'a beaucoup fait me sentir proche de Raymond Mauffray, c'est que bah lui aussi, il a été. Moi, je considère qu'aujourd'hui, on est en guerre, c'est-à-dire que la civilisation est en guerre contre le vivant. Et Raymond Mauffray a aussi vécu une période de l'histoire où il y avait une guerre qui menaçait de détruire un peu le monde. Et il avait 16 ans, et à l'âge de 16 ans, il s'est engagé dans la résistance. Il était dans le sud, il a essayé de rejoindre Londres, mais en fait il s'est pété la cheville juste avant d'y aller, donc en fait il est entré dans la résistance en France, dans le Maquis, avec son père notamment. Et son père devait, quand il dormait, son père devait s'attacher à lui pour pas qu'il se barre, aller niquer les Allemands. Mais donc il a participé à plein d'actions de sabotage, à détruire les infrastructures ennemies, à essayer de récupérer plein d'informations sur les troupes allemandes qui avançaient, etc. Je veux dire, on parle énormément de résistance aujourd'hui, c'est un mot qui est en train de devenir à la mode, sauf que je trouve que beaucoup de fois où on l'utilise, il est complètement vidé de sa substance et on ne sait plus vraiment ce qu'est résister. Et je pense que sur ça, Raymond Mauffray a aussi beaucoup de choses à nous apprendre sur ce que signifie résister à toute une machine, à tout un monstre qui est en train de nous tuer. Et c'est pour ça que je trouve que c'est terriblement actuel et c'est terriblement universel, son histoire. C'est pour ça que moi, ça m'a... Enfin, c'était il y a 70 ans, mais en fait, pour moi, c'est aujourd'hui aussi que ça s'est passé. Et c'est aujourd'hui que je l'ai vécu, moi, son histoire. Donc c'est ça qui m'a beaucoup lié à lui. Bah oui, sa volonté de se battre contre cette folie et sa volonté de revenir à, comme tu disais, à l'essentiel, ou en tout cas à une harmonie du monde, à quelque chose de... qui respecte simplement la vie sur Terre, qui respecte les lois du vivant, que je considère comme les meilleures lois, et je m'y soumets vraiment très volontiers parce que je trouve qu'elles sont justes. Ouais, c'est ça que je peux dire sur ce sujet.
Dans les documentaires que tu ramènes, il y a cette particularité, c'est que tu te filmes. Donc tu pars avec du matériel. J'imagine que tu as sûrement des batteries ou des panneaux solaires pour pouvoir charger les batteries et continuer à pouvoir tourner et nous offrir ces images. Comment ça t'est venu, cette idée de te filmer ?
Déjà, je pense qu'il faut parler de ce qui pourrait sembler à pas mal de monde comme une contradiction. Par exemple, dans mon voyage en Himalaya, le but, c'est de me séparer de tous les objets industriels de mon sac. Ce que j'ai fait en partie, en me séparant de mon briquet, en faisant du feu par friction, en duvet, en me faisant un manteau en peau de chèvre qui pue, en me construisant des cabanes à la place de ma tente, etc., etc., en me construisant un sac à dos en bambou. Et en même temps, j'ai une caméra, donc un objet de haute technologie qui participe à toute la merde dont on a parlé. Et pour répondre à cette contradiction, moi, je dépasse cette contradiction en me disant que, premièrement, j'ai l'impression qu'on est otage de cette civilisation, et même des gens qui ont toujours vécu en dehors de ce système-là ne peuvent plus le faire aujourd'hui. Par exemple, les chasseurs-cueilleurs que j'ai pu rencontrer au Népal ne peuvent plus vivent de la manière dans laquelle ils ont toujours vécu, c'est-à-dire que l'agriculture, par exemple, industrielle avance de plus en plus, donc il y a de moins en moins d'animaux dans les forêts, donc ils peuvent plus se nourrir de cette manière. Donc en fait, on n'a plus vraiment le choix, et même aujourd'hui, quand on est citoyen français, il faut avoir un accès à un ordinateur pour ses impôts, pour ses trucs d'identité. Il faut souvent maintenant avoir une carte bancaire. Moi, j'ai pas de smartphone. J'ai l'impression que ça va devenir de plus en plus nécessaire pour des démarches quotidiennes d'avoir un smartphone. Voilà. Et je pense aussi que si tous ceux qui avaient des valeurs écologistes se refusaient par un désir de pureté, de se refuser à toutes ces choses-là, pour être en adéquation totale en fait avec leurs valeurs et la manière dont ils veulent vivre, et ben en fait ça reviendrait à être silencieux. Et je pense que il n'y a pas de contradiction à utiliser une caméra ou un ordinateur pour prôner un monde sans caméra et sans ordinateur. Honnêtement, au début, moi, j'écrivais avant de, même pour moi, en fait, avant de partager ce que j'écrivais. J'ai commencé à faire des films. La première fois que j'ai pris une caméra, c'était mon premier film en Mongolie. Et c'était vraiment juste, si je voulais vivre de mon métier, il fallait que je fasse des films. Et c'est en le faisant, en fait, que j'ai appris à aimer cela et que j'ai vu ce format-là comme vraiment un super moyen d'avoir accès à du monde et de pouvoir partager à un plus grand nombre de personnes ce que j'y ai vécu et ce que j'y ai ressenti et ce que j'y ai pensé, etc. Donc c'est pour cette raison-là que j'aime faire des films.
Et aujourd'hui, tu vis de cette réalité que tu t'es construit ?
Depuis 2 ans, là, j'ai plus besoin de travailler. En fait, au début, moi, je finançais mes expéditions et je finançais ma vie en travaillant à côté, en dehors des expéditions. Donc, j'ai travaillé dans des fast-food, j'ai fait Deliveroo pendant un sacré moment. Et puis, en fait, je suis très mauvais en vélo, donc j'ai arrêté. Et depuis à peu près 2 ans et demi, j'arrive à vivre de mes bouquins, de mes livres, de mes projections. Donc, j'en vis chichement, hein, mais suffisamment pour continuer à faire ça. Donc pour moi, c'est assez l'essentiel. Et c'est vrai que moi, j'achète rien, quoi. Enfin, j'achète que dalle, quoi. Donc là, j'ai acheté des fringues, là, parce que j'ai oublié mon sac dans le train en venant ici. Donc j'ai dû me racheter des caleçons et des chaussettes par respect pour l'autre, pour autrui. Mais c'est vrai que je consomme en fait très très peu. Et voilà comment j'arrive à m'en sortir financièrement.
Il y a quand même, à travers ton parcours et tes expéditions, tu te retrouves dans des réalités radicalement différentes de celles qu'on peut partager ici dans notre quotidien. Après, tu te parlais de 45 jours, 46 jours, hein, sans parler à personne, isolé dans l'Amazonie. C'est ça, 46 ?
Ouais, 46.
46 jours isolé, donc il y a le temps de se passer beaucoup de choses à l'intérieur de soi. Quand tu reviens ici, après ce type d'expédition, est-ce que tu arrives à te mettre, j'ai envie de dire, à niveau ou est-ce que tu arrives à ne pas sentir en décalage par rapport à tes semblables qui eux n'ont pas vécu ces expériences impactantes, marquantes et très fortes?
J'y arrive. Il faut savoir, en fait, moi je parle jamais de ça à mes proches, enfin j'en parle très rarement. Moi je fais le film, en fait je fais des films moi pour les montrer à mes proches, c'est à eux que je parle quand je fais la caméra, quand je parle à la caméra, pour leur raconter, en fait. C'est mon moyen de raconter mon expédition, etc. Mais je sais pas, avec mes potes, je parle assez peu de ce que je fais, avec mes proches aussi. Enfin, on peut parler de l'écologie, etc., évidemment, mais c'est pas forcément sous l'angle de ce que je fais moi-même. Après, de revenir, après avoir passé plusieurs mois en Himalaya, en Alaska ou en Amazonie, jusqu'à assez récemment, en fait, les gens ont l'impression qu'il va y avoir un choc immense, et c'est pas un choc, moi, qui m'apparaissait que je vivais réellement, parce que jusqu'à très récemment, la ville était mon environnement naturel. Et je veux dire, j'étais pas du tout surpris de ce que je retrouvais quand je revenais, quoi. Mais il y a quand même eu une évolution dans ma pensée, dans la manière dont je voyais le monde, qui a fait que vivre en ville, mais c'est pas forcément juste en rentrant de l'expédition, mais c'est au jour le jour aussi grâce aux expéditions, de ce que j'y ai compris là-bas, est devenu de plus en plus insupportable. Et donc c'est pour ça que là j'habite plus à Paris. Moi j'habitais dans un studio de 25 mètres carrés pendant 4 ans avec ma copine, on était au bord du périph. Et donc il est venu un temps où j'ai voulu quitter ça, et ça s'est passé il y a quelques mois maintenant, où on habite dans les Alpes. Et ça me convient mieux, quoi, parce qu'en fait, il y a des choses belles autour de moi. Et c'est vrai que moi, là, j'ai besoin de beauté, quoi.
Yes, c'est la beauté, peut-être, qui sauvera l'humanité. Elliot, merci à toi.
Merci à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre.
Sentir.
Toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.